Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous de Wagon Livre ce soir. Et c'est un grand plaisir pour nous parce que nous rencontrons Florentine Rey. Alors qui est Florentine Rey? Vous allez le savoir d'ici quelques minutes. Nous allons parler de féminisme, de la place de la femme dans notre société. Donc une conversation et un entretien qui s'annoncent prometteur, riche et j'espère plein de révélations, plein de foule, plein de combativité. En tout cas, un entretien qui commence avec le sourire. Bonsoir Florentine Rey.
Bonsoir Yannick Petit.
Alors Florentine Rey, permettez-moi d'abord de donner quelques éléments biographiques à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes une jeune femme née, puis-je donner l'année de votre naissance?
Oui,
vous êtes née en 1975. Mmh. Vous avez mené des études de piano intensives. Florentine Rey, pour quelle raison ces études étaient-elles intensives?
Ça signifie qu'en fait j'étais dans ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés musicales, donc le matin à l'école et l'après-midi au conservatoire. Donc de nombreuses heures passées devant le piano et puis en solfège également.
Donc une forte sensibilité artistique et musicale très jeune qui se développe encore plus avec de solides études littéraires, notamment prépa littéraire, hein, classe d'hippocagne. Et puis c'est en hippocagne que vous allez manifester un intérêt très fort pour la réflexion, la philosophie.
Oui, pour la pensée en fait. J'ai vraiment rencontré le cheminement de la pensée en hippocagne. Par contre, me manquait beaucoup la fantaisie pour pouvoir la déployer, cette pensée dans un cadre un peu moins rigide, désolé de le dire, que celui de ces études-là, d'où mon intérêt pour les beaux-arts et mon envie d'entrer aux beaux-arts ensuite.
Alors, vous obtenez en 2000 un diplôme des beaux-arts,
oui.
Et là, Florentine Rey, vous devenez une jeune chef d'entreprise, puisque vous créez c'est ce que disent les sites internet, une structure de production artistique où se croisent l'art et la technologie.
Oui, en fait au Beaux-Arts je faisais beaucoup d'installations interactives avec du son, de l'image, des ordinateurs, souvent l'intervention d'un ingénieur ou d'un développeur pour ce qui était du programme informatique. Et je me suis dit, quand je vais sortir de l'école, ça va être difficile d'avoir de nouveau accès à ces outils et à ces ressources. Et puis, entre-temps, j'étais partie en stage au Québec. Et le Québec est très en avance pour tous ces liens entre l'art, l'industrie et les nouvelles technologies. Il se trouve que je suis originaire de Saint-Étienne, qui est une ville très industrielle. J'ai un père ingénieur aussi. Tout ce qui est innovation et invention m'a toujours passionnée. Et pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'inventer dans toutes les sphères de la société, donc aussi bien en termes de management qu'en termes justement d'appropriation de nouveaux outils. Et donc c'est pour ça que, toutes ces conditions réunies, j'ai eu envie de créer une entreprise à la sortie de l'école, en me disant, je peux peut-être inventer de ce côté-là aussi, et ça peut peut-être être un outil, une carapace pour me frotter au monde.
Alors le monde, vous vous y frottez, vous vous frottez en tout cas un certain temps au monde de l'entreprise, un monde sans doute difficile, concurrentiel, dont vous rendez compte dans notamment Blandine Marcel 2, Business Story, donc votre deuxième roman paru aux éditions Michelon en 2007. On va beaucoup parler ce soir de votre dernier ouvrage qui est en fait ce que l'on appelle, Florentine Rey, un roman graphique et qui a pour titre exclamatif « Mon œil » aux éditions des Ronds dans l'eau, ouvrage qui a obtenu en 2009 le prix Olympe de Gouges. Mais on va rentrer d'ici quelques minutes dans le vif du sujet. J'aimerais savoir justement comment, bien sûr avec un parcours, des études littéraires en hippocagne, forcément un intérêt très fort pour l'écriture et la création littéraire, comment en venez-vous à laisser tomber cette entreprise que vous aviez créée de toutes pièces? Vous laissez tomber cette entreprise Vous recasez tous vos collaborateurs, c'est-à-dire vous prenez soin du suivi social et de la reconversion, ça c'est assez extraordinaire. De recaser ses collaborateurs en disant moi je prends un autre parcours, vous pouvez pas me suivre dans mon parcours, donc je vous soutiens.
Oui, je voulais pas saboter mon projet parce que c'était un beau projet, ce projet d'entreprise, et au début j'arrivais bien à équilibrer entre ma pratique plastique, j'ai fait des tournées, j'ai pas mal voyagé, et puis la direction de l'entreprise. Mais à un moment donné j'ai été soumise à des contraintes de rentabilité qui ont fait que il a fallu que je me frotte une fois de plus à une partie de l'entreprise que je n'ai pas aimée, qui était du côté des nouvelles technologies, mais Internet, nouveaux outils, mais appliqués à des projets beaucoup moins intéressants sur le plan humain. Donc il fallait que je passe à autre chose. Et puis je commençais à saturer des nouvelles technologies parce qu'au début j'étais persuadée que en les investissant, en s'appropriant ces nouveaux outils, on pouvait y mettre des contenus intelligents, du sens. Et puis c'est vrai que ces outils appartiennent surtout à des grandes firmes qui n'y mettent pas beaucoup d'intelligence et de sens à l'heure actuelle, et qui fabriquent plutôt des contenus qui jouent sur notre besoin d'immédiateté, de consommation, de satisfaction. Tout de suite.
Donc cette rupture avec l'entreprise, c'est aussi une façon de contester l'environnement économique indispensable et auquel on doit se frotter, pour reprendre cette image du frottement, auquel on doit se frotter si on veut survivre dans un univers économique qui est difficile, qui est cruel.
Oui, c'est-à-dire que
et qui se déshumanise aussi, oui, malheureusement un peu trop.
Tout à fait. À un moment donné, il faut dire non. Il ne faut pas hésiter à dire non.
Donc
et à
vous
faire autrement.
Vous avez voulu reconquérir votre liberté.
C'est aussi ma liberté, mes valeurs, ne pas abîmer mon projet avec cette notion de rentabilité à tout prix, dire non à des collaborateurs, des firmes avec lesquelles on collaborait, qui nous sous-traitaient en fait, parce que on était une toute petite structure, donc dans laquelle il y avait une vraie circulation de la créativité et de l'invention, mais soumise à leur mode de fonctionnement collectif avec des feuilles de temps, des comptes rendus sans cesse, notre créativité, on la perdait. Donc tout ça devenait trop lourd.
Elle est devant les micros de Radion ce soir, elle s'appelle Florentine Ray et elle est l'invitée de Wagon Livre, votre rendez-vous hebdomadaire, le mercredi à 21h sur Radion.
Alors vous décidez de vous frotter, je reprends l'image,
c'est rigolo.
Vous décidez de vous frotter à l'univers de la création littéraire et paraît donc en 2006 votre premier roman qui a pour titre Blandine Marcel aux éditions Michalon. Et la publication de ce livre est étroitement liée à la rencontre d'un homme important qui a disparu maintenant, qui était auteur, parolier, un temps aussi très engagé politiquement, puisqu'il a fait de la résistance, a été proche du Parti communiste français. C'est Jacques Lanzmann.
En fait, il y a eu deux hommes, parce qu'il y a eu aussi mon ex-mari qui... vous savez, on dit que le déclenchement de l'écriture, ou ce qu'on appelle le saisissement créateur, ce que Didier Anzieux, psychanalyste, appelle le saisissement créateur, passe par une première phase qui réunit des conditions, dont celle de créer une sorte d'espace transitionnel autour de l'artiste ou de l'auteur qui lui permet... d'avoir accès à lui, à ce qu'il a à dire. Et je crois que mon ex-mari m'a permis à créer cette bulle, cet espace transitionnel, puisque ce premier Blandine Marcel, je l'ai écrit en voyage de noces, en fait. Et il est sorti d'un coup, en 15 jours. Je crois que j'avais besoin de beaucoup de liberté aussi. D'ailleurs, il est question de multiplicité, de pouvoir être enfant, adulte, homme, femme, de pouvoir être plusieurs choses à la fois, plusieurs êtres à la fois, hein. Aujourd'hui, où on vit dans une société qui a plutôt tendance à nous rétrécir, à nous mettre dans une seule catégorie. Enfin bref, donc ce premier Blandine Marcel est sorti d'un coup en voyage de noces. Alors peut-être que j'avais autre chose à faire en voyage de noces aujourd'hui, puisque c'est mon ex-mari, mais bon, ça c'est un clin d'œil. Et puis, chaque année, j'allais à la fête du livre de Saint-Étienne, et donc Sacha a donné le manuscrit à Jacques Lanzmann, qui était sous son chapiteau, il fait très chaud, à l'époque il était déjà un peu malade, il en avait marre d'être là, je crois, Lanzmann. Sacha lui donne le manuscrit, Lanzmann lui dit « j'en veux pas, je suis sollicité sans arrêt, je le lirai pas, c'est pas la peine ». Sacha a insisté, Lanzmann a mis le manuscrit dans son sac, probablement pour avoir la paix. Et puis là, il y a eu un vrai coup de baguette magique sur mon, entre guillemets, destin, puisque Lanzmann est rentré le soir à Paris et qu'il avait oublié le livre qu'il était en train de lire à l'hôtel. Donc il n'avait plus que mon manuscrit dans son sac. Donc il l'a lu, en descendant du train, il m'a appelé en me disant « venez, j'ai envie de vous aider ». À la fin du Blandine Marcel 1, je dis « ça miaule dans le cartable » avec l'idée d'une petite voix ou d'une petite clochette là, qui résonnerait dans l'arrière-tête, comme dit Bernard Noël. Et je crois que Lanzmann aussi avait cette petite clochette ou ce petit grincement qui résonnait dans son arrière-tête et qui nous a réunis, quoi.
Vous est-il possible, s'il vous plaît, Florentine Ray, de présenter brièvement l'intrigue de ce premier roman, dont je répète le titre, hein, Blandine Marcel, aux éditions Michalon, qui est disponible depuis quelques mois, puisque vous m'avez dit 4000 exemplaires vendus.
Oui, donc, c'était le premier tirage. Hein. Oui. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être juste lire le prologue qui pose l'histoire, et puis vous le détaillez un tout petit peu. Marcel, mon frère imaginaire, s'est fait désintégrer un jour à la sortie de l'école par une autre mère, interrogeant tout simplement la mienne, « Comment va votre fils aîné ?» Et là, fini l'Empire Marcel, il a sombré. Elles me l'ont exécuté sur le parvis, devant témoins, et il a fallu que je distribue moi-même les tracts de démenti. Ma mère ne voulait pas de fils aîné. Ainsi, pour ne pas laisser tomber l'imaginaire, j'ai travesti mon frère en fille. Marcel est dès lors devenue Blandine, Blandine Marcel pour les intimes, histoire de ne pas oublier ses origines. Voilà, donc c'est l'histoire d'une narratrice qui s'invente un double, qui au début prend l'allure d'un frère Marcel, puis le renomme Blandine, mais dans sa tête c'est quand même Blandine Marcel, puisque Marcel était là aux origines. Et puis ce double sert de filtre par rapport au réel, Donc dans le premier, il s'agit d'essayer de partir en voyage, et puis dans le second, le filtre de la création d'entreprise. Et d'ailleurs, le premier, je disais que j'avais mis 15 jours à l'écrire avec très peu de retravail derrière. Le second, j'ai mis 6 mois, et quand je l'ai rendu à l'éditeur, il m'a dit « c'est pas bon, t'es collé au réel, ton histoire d'entreprise, ça sent trop le vécu, il faut que t'arrives à te décaler pour retrouver Blandine Marcel et retrouver sa fantaisie ». Ce que j'ai fait, j'ai retravaillé, et sont apparues des choses comme les lapins ou la flaque derrière l'usine qui n'étaient pas là au début.
Ma petite, ma douceur, je me souviens de tous ces talons crève-cœur et l'odeur de ton cou, les trottoirs qui luisaient parce qu'il avait plu, ta peau de nacre noir, la courbe de ton cul. Ce bruit des bracelets que tu cales à tes pas, qui écrivait chaque fois mon corps en pointillé, puis tes yeux surtout, et leur drôle de lueur, ma petite, ma douceur, je me souviens de tout. Presque nuit, et j'ai juré au ciel que t'étais pour ma vie une patrie nouvelle. Je voulais tout apprendre, tes rires, ton drapeau, les marques sur ta peau. J'avais mon caravane, j'ai oublié mon nom pour me rappeler tes chansons. Je les sais. Qu'est-ce que tu m'adores, ma petite, ma douceur, je me souviens de tous ces talons crève-cœur et l'odeur de ton cou, les trottoirs qui luisaient parce qu'il avait plu, ta peau de nacre noir, la courbe de ton cul, ce bruit des bracelets que tu cales à tes pas, qui écrivait chaque fois mon corps en pointillé, puis tes yeux surtout, et leur drôle de lueur, ma petite, ma douceur, je me souviens de tout. Je voudrais juste te retrouver, je peux pas croire qu'il soit fou.
On ne compte plus les artistes qui s'enflamment pour cette auteure, compositrice, interprète de 30 ans qui s'inscrit de plein pied dans la tradition de la chanson à texte, profonde et poétique, tout en l'ouvrant aux quatre vents du rock, du trip-hop et du tango. C'était Petite, interprétée par elle, de son vrai nom, Raphaël Lanader. C'est un choix de notre invité, ce soir, devant les micros de Radion, Florentine.
J'avais, juste avant la pause musicale, dit que nous aborderions dans votre deuxième roman, Blandine Marcel 2, sous-titré Business Story. Je l'ai dit très à l'anglaise, hein, Business Story. Et là, effectivement, nous entrons dans un univers drôle et inquiétant. Et je vous disais hors micro combien ce roman, que je trouve drôlatique, ce roman me rappelle l'univers de Boris Vian. Et vous vous frottez, une fois de plus encore du frottement, vous vous frottez, me semble-t-il, beaucoup à l'univers, à la dimension surréaliste.
Oui, à la dimension de l'imaginaire ou de la transformation de la réalité.
Alors, pour expliquer, donc c'est, on retrouve Blandine et son double, oui, qui part à la conquête du monde économique en créant sa propre entreprise, mmh, qui fabrique des oreillers.
Oui, des oreillers fantaisie.
Des oreillers fantaisie. Mmh. Alors c'est extraordinaire parce que il y a un état d'esprit créatif formidable. Il y a des oreillers qui puent, des oreillers qui pètent, des oreillers gonflables. Bon là c'est des oreillers jetables. Il y en a même des biodégradables, des oreillers, mmh, biodégradables. Il y a des oreillers mangeables. Et alors, Florentine Ray, il y a des oreillers qui enregistrent les rêves et des oreillers qui disent des mots d'amour. N'est-ce pas merveilleux tout cela? Où allez-vous puiser toutes ces excentricités?
Ça, je ne sais pas exactement, mais je l'ai toujours eu, hein, cette imagination. Et ça, c'est mon filtre par rapport à la réalité. C'est ce qui me permet de sublimer. C'est ma voie de sublimation.
Et alors, effectivement, il y a plein de fantaisies, notamment donc, les ouvrières, les employés appelés et recrutés pour créer ces oreillers, puisque les commandes viennent de différents organismes, tantôt le monde hospitalier, tantôt l'armée sur la face, pour cette raison que Blandine va tout d'un coup s'adonner à un sévère entraînement physique, elle se virilise, enfin. Sont recrutées des ouvrières qui sont des Martines, c'est-à-dire cette petite fille que nous avons connue dans une sorte de quoi dire, bande dessinée de nos enfants.
Oui, d'album. Oui, un album. Alors j'avais un petit compte à régler avec ces Martines très sages là, qui donnaient le modèle de la petite fille bien à sa place justement. Donc j'ai un peu détourné les Martines, dont le premier Blandine Marcel aussi. D'ailleurs, elles servent pour faire des spectacles quand on a besoin de figurants. On prend des Martines, enfin elles peuvent servir à tout un tas de choses. Et puis dans le second, donc pour travailler à l'usine.
Et donc ces Martines, le jeu de mots est de vous les sonnez, on peut dire, vous sonnez les Martines.
Oui, oui.
Effectivement, alors elles sont capables aussi de protester au bout d'un moment quand même. Il y a un réveil des Martines.
Oui, les petits sursauts.
Elles
ne
sont pas si sages que cela. Mais donc les Martines, oui, cette petite fille en petite robe, dont on voit souvent la culotte, d'ailleurs on a souvent reproché à l'auteur des Martines d'être un peu ambigu parfois, de montrer un peu la petite culotte blanche sous la robe de Martine. Alors on va, Florentine Ray, rentrer, on y est déjà entré bien évidemment, mais dans le vif du sujet, en abordant votre troisième ouvrage, qui est un roman graphique, dont je rappelle le titre, Mon œil, avec un point d'exclamation, Mon œil, aux éditions des Ronds dans l'eau, et qui a paru l'an dernier, en 2010. C'est un roman graphique, on va dire que c'est une bande dessinée, mais dans un format autre que celui de la traditionnelle bande dessinée, que les auditrices et auditeurs nous suivent bien. Voilà un livre drôlement subversif, Florentine Ray, parce que, pour résumer, vous intervenez si je...
Oui, je vous en prie.
Je venais à me tromper. Il s'agit en fait de, comment dire, la mission, les aventures de deux femmes, aventures intellectuelles, deux femmes qui essaient de comprendre pour quelles raisons les femmes ont tant de mal à trouver la place qui devrait être la sienne dans une société qui l'écrase, qui lui dicte ses goûts et ses choix. J'ai résumé...
Oui, tout à fait. Donc, il y a cette aventure de la réflexion et qui va les mener aussi vers la notion de l'écologie comme renversement culturel dans lequel les femmes ont une place importante, si ce n'est principale, à mon avis.
Donc, je disais livre subversif parce qu'à travers ce livre, vous essayez, je trouve que vous y arrivez bien, c'est très sévère, très, très acerbe. Vous remettez en question et en cause un grand nombre des diktats de la société qui est la nôtre, où l'on se rend compte, effectivement, alors vous vous intéressez aux femmes, mais on se rend compte que la société modèle complètement les femmes,
oui,
les sculpte, et que les femmes ne sont pas capables de se révolter. De sortir du modèle qui leur est imposé.
C'est très difficile de se désaliéner, de sortir de ces modèles qu'on a intériorisés depuis la nuit des temps. Hein, à un moment donné, je parle de mémoire phylogénétique, on reviendra certainement dessus tout à l'heure, mais c'est cette idée de c'est là depuis toujours, et donc s'en défaire, c'est difficile. Et puis la question, c'est pas forcément, pas principalement celle de la domination des hommes qui est en cause, mais c'est plutôt celle d'un modèle de société fondé sur la conquête, hein, la conquête notamment de la nature, et qui donne une supériorité aux conquérants sur les autres membres de la société, et notamment les femmes. Et c'est ça aussi que je voulais dire à travers mon œil, donc en croisant ce thème du féminin, de la société de consommation et de l'écologie.
Vous dénonciez donc un modèle stupide et dévalorisant, vous dénoncez le modèle de la femme docile qui se soumet à son mari, notamment, oui, puisque le livre s'ouvre sur un extrait d'un manuel scolaire d'économie domestique pour les femmes qui, en fait, a 50 ans, hein, date de 1960, dans lequel on prodigue des conseils aux femmes en leur demandant de, bien sûr, tout mettre en œuvre pour satisfaire
les
tous
désirs,
les appétits
et
du mari,
besoins du mari,
en fait,
hein, tout à
tous
fait.
Les appétits, quels qu'ils soient.
Alors, ce qui est marrant, c'est que depuis, j'ai reçu pas mal d'extraits, de photocopies et de livres, de manuels d'éducation domestique de femmes qui m'ont envoyé, qui en avaient dans leur tiroir, justement, aussi. Et c'est vrai que je fais un rapprochement entre ce manuel qui date de 1960 et les magazines féminins aujourd'hui, qui encouragent de nouveau à réussir la gestion et l'aménagement de sa maison, son bébé, et sa vie sexuelle avec son mari, enfin qui enferme la femme dans les mêmes choses que celles dans lesquelles elles étaient enfermées, hein, autrefois.
Et magazines féminins qui, effectivement, mettent toujours en avant le corps, la beauté de la femme. Il y a un moment, une question qui est posée par une des femmes avec beaucoup d'humour, c'est « Est-ce que mon cul va bien avec ma tête ?»
C'est ça. Comment concilier l'intellect et la chair? En fait, je crois qu'en tant que femme, on passe aussi beaucoup de temps à chercher notre sexualité et à comprendre notre corps, à se le réapproprier, et qu'on n'est vraiment pas aidé, quoi. Et que ces magazines féminins, les médias et la publicité et leur diktat de jeune, belle, lisse, sans défaut et au potentiel érotique toujours au top, c'est pas possible, quoi.
Mais n'est-ce pas la faute des femmes dans la mesure où elles seraient des victimes consentantes?
Alors, je pense
Est-ce
pas.
Est-ce que les femmes n'acceptent pas?
Je sais pas si elles acceptent. C'est difficile cette histoire de victime, surtout que dans mon œil, j'essaye de dire qu'il faut devenir des protagonistes, en fait. Donc, mais c'est sûr qu'on est dans une espèce de précarité psychique aussi, parce que quand on vous définit sans cesse comme manque, castration, tout ça, ça mutile un peu la pensée, hein.
Donc, et comment une jeune fille, en 2011, une jeune collégienne ou une lycéenne, comment, et vous allez avoir du mal à donner des conseils, parce que bien sûr, c'est très personnel, mais comment une femme peut-elle trouver la place qui devrait être la sienne? Parce que ce que vous dites, c'est que les femmes ne sont pas à leur place, leur place naturelle.
En fait, elles n'ont pas beaucoup le choix. Et ce que je dirais, c'est que moi, personnellement, chaque fois que j'ai voulu me positionner ailleurs, que là où on m'attendait, quand j'étais adolescente notamment, j'avais l'impression d'être dans la transgression. Donc, elle est difficile à tenir, cette place. Et donc, il faut aller chercher des modèles qui sont autres, qui peuvent être les femmes dont je cite les noms dans mon œil, mais qui ne sont certainement pas ceux que proposent les médias, de la simple, les modèles du mannequin ou de l'actrice. Le mannequin ou l'actrice, pourquoi pas, mais pas que ça, quoi. S'il vous plaît, pas que ça.
Je te laisse ce matin notre histoire sans sous-titres. Tu me voulais moins errante, plus à température ambiante. J'en ai passé des jours comme il se doit. J'étais la fille de carbone, imprimée de temps d'il faudrait, déguisée à en trébucher. Moi je préfère voyager légère, l'épitaphe pourrait me plaire. Cheminer en zigzagant, sûre de rien pour le moment. Moi je préfère voyager légère. Si je disparais, on me laisse. laisse juste un petit peu égaré. La la la. Je propose qu'on envisage de redéfinir la lumière, qu'elle s'avance plus doucement, que le matin vienne au couchant, ouvrir grand les bras quand le vent frappe au cœur, réparer les heures éteintes, puis aimer à la renverse et s'endormir. En sandales, moi je préfère voyager légère. L'épitaphe pourrait me plaire. Cheminer en zigzagant, sûr de rien pour le moment. Moi je préfère voyager légère. Si je disparais, on me laisse juste un petit peu égaré. La la la.
Lola Lafont, chanteuse, femme de lettres et compositrice, nous interprétait « Voyager légère », un coup de cœur qu'a voulu partager d'autres invités avec les auditeurs de Wagon Livre, la suite de notre émission en compagnie de Florentine Rey, jeune auteure féministe découverte par Jacques Lanzmann.
Vous mettez à l'honneur des femmes d'horizons extrêmement variés, y compris même géographiques. Des noms de femmes, j'avoue, Florentine Rey, dont j'avais très très peu, voire pas du tout entendu parler. Ayaan Hirsi Ali.
Oui, alors j'en cite.
J'espère l'avoir bien dit, mais vous en citez beaucoup. Oui. Je pense Hubertine Auclair, j'avoue, je ne connaissais pas.
Elfriede Jelinek, qui est une Autrichienne dont la pensée a beaucoup compté pour moi.
Et pourtant, vous m'avez dit
prix Nobel de littérature. Donc c'est vers toutes ces femmes-là qu'il faut se tourner aussi, qui ont une pensée, une réflexion, mais aussi des corps et aussi un féminin tout à fait bien assumé.
Alors des femmes qui prennent des risques, parce que j'aimerais que vous rappeliez aux auditeurs qui était Olympe de Gouges, puisque votre roman graphique Mon œil a obtenu le prix Olympe de Gouges en 2009. Qui était cette femme?
Alors c'était une révolutionnaire écrivain qui s'est beaucoup battue pour les droits de la femme. Elle écrivait beaucoup de théâtre aussi, et au moment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a dit pourquoi les femmes ne font pas partie de cette déclaration, on représente la moitié de l'humanité, donc il faut qu'on soit dedans, il n'y a pas de raison. Bon voilà, et ça s'est pas très bien passé, elle a été guillotinée. C'était une femme très libre dans sa sexualité aussi, elle avait des amants, n'hésitait pas à vivre comme elle l'entendait. Et donc recevoir le prix Olympe de Gouges, qui prolonge une action ou une pensée en 2011, c'est flatteur pour moi, c'est très flatteur, et je pense assez souvent à elle. Alors il y avait une petite anecdote rigolote à Montauban, puisque c'est le prix est décerné par la ville de Montauban, quand je fais quelque chose, je me demande est-ce que c'est olympien ou pas olympien comme attitude, ça.
Elle a été guillotinée en 1793. Vous, justement, qui ne ne prenez pas le chemin de la bien-pensance actuelle. Vous ne craignez pas que quelqu'un ou des personnes, symboliquement, vous coupent la tête.
Pas me coupe la tête, mais c'est, disons que j'ai...
Ou vous égratigne.
Oui, ben, je suis déjà égratignée. Enfin, je me décale maintenant. J'ai appris à l'âge adulte à faire un petit pas de côté pour que la balle passe à côté. Mais bon, c'est sûr que quand on fait un peu différemment ou qu'on dit des choses qui ne sont pas bien pensantes, on ramasse un peu.
Nous avons, et vous avez sans doute bien compris si vous écoutez attentivement cet entretien, que Florentine Rey est féministe, pas seulement dans l'âme, jusque dans la plume, jusqu'au bout de la plume, je dirais presque jusque dans l'encrier. Et effectivement, nous avons bien noté que le sexisme était la première forme de racisme. Alors, le moment est venu de parler de la femme, les femmes qui sont aussi des mères, et se pose le problème de la maternité et le problème du ventre des femmes. Dans mon œil, votre roman graphique, il faut dire que les femmes ont une chance colossale puisqu'elles peuvent consulter un oracle moderne qui est un œil,
oui,
une sorte de cyclope, enfin d'œil unique, qui délivre à ces femmes curieuses du destin et de l'identité et de la condition féminine, il délivre des tickets de projection qui leur permettent d'aller interroger ou d'entendre des figures ou féminines ou masculines du passé sur les femmes. Et notamment Napoléon, qui va les agacer très rapidement, puisqu'il a écrit ou dit « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants ». Alors Florentine Rey, à qui appartient le ventre de la femme ?
Eh ben, c'est la question que je voulais soulever justement dans mon œil, la question de la réappropriation de nos corps, hein, et de la pleine propriété de nos ventres, de nos quotidiens, de nos vies, de nos corps, qui de nouveau aujourd'hui a tendance à nous échapper.
Et alors, le ventre garde, le ventre ou l'inconscient, le corps et l'inconscient des femmes gardent des traces des maltraitances, des violences qui ont pu être commises.
Oui, c'est ce qu'on appelle la mémoire phylogénétique. Donc il y a cette idée que, bon, d'abord par rapport au ventre et à la grossesse, en enfantant, on ouvre les vannes de la mémoire. Mais la mémoire phylogénétique, c'est quelque chose donc qui montre qu'il y a de génération en génération quelque chose qui se transmet à travers les gènes. De l'ordre d'un événement ou d'une violence subie autrefois. Donc c'est intéressant ça, parce que une fois de plus, c'est aussi quelque chose de très intériorisé dont il faut arriver à prendre conscience et à parfois se défaire pour pouvoir avancer, se constituer et retrouver son identité. Et puis ce que je voudrais dire là pour rebondir, c'est aussi que par rapport à cette idée de pleine propriété et de réappropriation, les femmes sont de nouveau mises du côté de l'objet, l'objet du désir, on encourage le potentiel érotique de nos corps et qu'on a une vraie difficulté à se subjectiver, nous femmes, à dire « je », à prendre la parole pour dire « je ». D'ailleurs, moi-même, dans mes premiers romans, hein, Blandine Marcel, c'était « on » et « on », c'est tout ou rien, hein, c'est tout et rien. Il est temps de se subjectiver et de réapprendre à dire « je ».
Grâce au ticket de projection, évidemment, on se promène dans les galeries de l'histoire et vous nous dites, dans mon œil, qu'une reine égyptienne, la reine Hatshepsut, a été contrainte de se travestir en pharaon pour régner.
Oui. Alors ça, c'est l'idée de... Alors dans l'opposition, je veux surtout pas être dans l'opposition homme-femme. Et pour moi, l'idée de l'égalité homme-femme en faisant en sorte que les femmes deviennent des hommes, c'est pas possible. Mais il y a certains endroits où les femmes se comportent comme des hommes pour pouvoir arriver à leur fin. Moi-même, quand j'avais mon entreprise, à un moment donné, je me suis un peu virilisée, comportée comme un homme avec mon petit tailleur et mes cheveux courts et en avant, on va au front. Et je pense que c'est pas la bonne solution, qu'en tant que femme, on porte aussi d'autres valeurs et que c'est important de mettre ces autres valeurs en avant.
Quelles sont les femmes, à l'heure actuelle, Florentine Rey, dans l'espace public ou médiatique, quelles sont les femmes qui trouveraient grâce à vos yeux ?
Il faudrait que j'y réfléchisse un tout petit peu pour répondre.
Donc spontanément, vous n'en voyez pas. Vous avez du mal à donner des noms.
Oui, pas...
Ségolène Royal.
Non, du tout.
Martine Aubry.
Non plus, non plus.
Ramayade.
Non, non.
Carla Bruni.
Non.
Décidément, c'est pas facile. Alors, avec l'étiquette projection, je disais, dans votre roman graphique Mon œil, les deux copines qui sont dans une prise de conscience forte de leur condition féminine et qui voudraient en sortir pour adhérer à une autre condition féminine, font apparaître différents personnages. Alors, il y a le général de Gaulle aussi à un moment. Alors, j'aimerais que vous rappeliez aux jeunes auditrices et auditeurs la proposition qui avait été faite au général de Gaulle lorsqu'on lui demanda de créer un secrétariat d'État ou un ministère de la condition féminine.
Oui, c'est ça. Alors, au sortir de la guerre, donc, il n'était pas question de renvoyer les femmes derrière leurs fourneaux, et ça, de Gaulle était acculé. Hein. Donc, il a dit « Ok, je ne peux pas faire comme en 14 et vous renvoyer faire la vaisselle. Donc, je vais vous donner le droit de vote. » Donc, ça, c'est une chose très importante. Et puis, après, par rapport à cette réflexion, donc un ministère des femmes, eh ben, il a eu cette parole malheureuse, pourquoi pas un ministère du tricot, mon inconnu. Donc, voilà.
Autre figure masculine qui apparaît, c'est Éric Zemmour. Mm. Alors, Éric Zemmour semble ne pas vous inspirer beaucoup de sympathie. Pour quelles raisons ?
Alors, on en a beaucoup parlé d'Éric Zemmour, donc je ne veux pas en rajouter une couche, mais je trouve qu'il va trop loin, il est dans la provocation, il a beaucoup de place accordée dans les médias et il dit des choses parfois bêtes. Parfois, je pense que ça dépasse d'ailleurs sa pensée et il fait du machisme primaire, c'est dommage.
Il est aussi homme de droite, et c'est-à-dire que vous vous situez quand même plus en sympathie avec des idées de gauche.
Oui, certainement, oui.
Et la dévirilisation du corps masculin. Quand on regarde dans la rue les jeunes hommes, ne trouvez-vous pas justement que les garçons ont tendance à se féminiser pour apparaître peut-être plus beau, plus élégant? Alors, est-ce que justement eux-mêmes ne seraient pas victimes du diktat de la beauté féminine, de la femme que l'on veut farder? Il y a des hommes maintenant qui prennent grand soin de leur peau, qui mettent un peu de fond de teint, un peu de poudre. Les hommes s'épilent parfois, hein, c'est la chasse aux poils. Est-ce que les hommes ne sont pas justement en train de perdre cette virilité? C'est ce que dit donc Éric Zemmour.
Oui, alors la féminisation, pour moi, elle n'est pas du côté du maquillage ou de la chasse aux poils. Et je dirais que de ce côté-là, il n'y a pas de modèle. Hein. Et attention à ça aussi. Et je pense que la société de consommation arrive à toucher les hommes aujourd'hui. Et bien sûr, eux aussi sont encouragés à mettre en valeur le potentiel érotique de leur corps. Et je pense que cette idée d'un corps lisse, jeune, sans poils, sans humeur, sans liquide, sans humidité, c'est pas forcément que du côté du féminin, ça va aussi avec une image de l'humain qui se robotise, qui se désincarne, qui se déshumanise.
Thank you.
Un choix musical de notre invitée Florentine Ray, ce soir en notre compagnie dans Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire chaque mercredi de 21h à 22h sur Radion.
Notamment, vous évoquez dans Blandine Marcel 2, vous parlez, au moment de l'audit de l'entreprise, de personnages qui sont le prototype du genre post-humain. Alors, le genre post-humain, c'est justement un semblant d'homme, mais qui a perdu son humanité.
Oui, qui a perdu son humanité, sa capacité de penser, de discernement, et qui gobe tout ce qu'on lui donne à gober.
Et ça dit, Florentine Ray, que le corps serait sacrifié sur l'autel triomphant du capitalisme ou de la société de consommation.
Sacrifier le corps...
Formaté.
Oui.
En prologue, à mon œil, il y a cette citation de Pippi Lotiriste, une artiste contemporaine, qui a dit « Toute femme qui pense est féministe ». Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la féministe revendiquée, c'est celle justement qui mise sur l'esprit et non pas justement sur le corps qui serait... signe de l'identité de la femme jusqu'à présent.
Alors, je mettrai surtout pas le corps de côté parce que pour moi, il est très important, voire même c'est à partir de là que tout se fait, y compris dans l'écriture. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression toujours d'écrire à partir du corps. Mais ce que je voulais dire avec toute femme qui pense est féministe, c'est que on reste humain et femme à partir du moment où on tient en mouvement sa pensée. Et c'est très important ça, où on garde la tension, on garde l'énergie, on garde la dynamique. Faites attention de ne jamais être à l'arrêt. Il y a un proverbe qui dit ça, on peut se permettre d'être lent, mais de ne jamais être à l'arrêt. Et c'est ça. Et le modèle post-humain, c'est des humains peut-être qui sont à l'arrêt.
Impossible, au cours de notre entretien, Florentine Ray, de ne pas s'arrêter un peu sur les violences faites aux femmes aux quatre coins du monde. Femmes assassinées par lapidation, immolation ou brûlure à l'acide. Vous dites, puisque vous intervenez souvent dans le cadre d'ateliers d'écriture ou en tant qu'intervenante extérieure dans des classes de collège et lycée, vous dites que les garçons, les jeunes garçons, ont un vocabulaire absolument... odieux, vulgaire, en parlant des femmes.
Oui. Alors, les violences faites aux femmes dans le monde, c'est tout simplement inadmissible. C'est juste pas compréhensible, quoi. On se demande qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, pour ce qui est des lycées, des collèges, c'est vrai que les garçons mettent des baffes aux filles, les poussent, les traitent de putes. Une fille, c'est une pute. C'est ça aussi, c'est affligeant. Affligeant.
Les filles ne mettent pas de baffes aux garçons.
Il y a une question de force physique, hein. Donc quand elles essayent, se met en place un rapport de force, un espèce de petit combat où le garçon va avoir le dessus.
J'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice, Florentine Ray. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre en question la mixité à l'école, c'est-à-dire revenir comme une époque, classe de garçons d'un côté, classe de filles de l'autre?
Wow. C'est une drôle de question.
D'instinct. Histoire peut-être d'atténuer justement cette violence latente qu'il y aurait entre filles et garçons.
D'instinct, je dirais non, que c'est pas une solution, c'est pas une façon de régler la question. Non. Faudrait plutôt y mettre, essayer de renverser cet orgueilleux modèle de développement là qui encourage à détruire, à écraser et à mettre de côté plutôt qu'à combiner, collaborer et construire ensemble. Je pense que si on veut arriver à passer à autre chose, c'est en construisant ensemble hommes et femmes. Justement, c'est là qu'elle est la force et là et peut-être entre guillemets la nouveauté, hein, c'est d'arriver enfin à faire ensemble avec nos différences, nos valeurs.
Florentine Ray, vous avez été en résidence à la Maison Jules Roy à Vézelay en 2010. Vous avez aussi été en résidence plus spartiate à la Fondation Zervos à la Goulotte, au pied de Vézelay et de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine. Et effectivement, en Bourgogne, il y a une figure qui est celle, entre autres, hein, de Colette et de Jules Renard. Jules Renard a dit, et je ne peux m'empêcher de vous la citer, Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant.
Oui, très bien.
Florentine Rey, avant de nous quitter, parce que l'entretien arrive à son terme, est-ce que vous auriez la gentillesse, s'il vous plaît, de nous lire un extrait donc, de votre roman Blandine Marcel II, sous-titré Business Stories, aux éditions Michel-Ancien.
Avec plaisir. Ne pas compter sur le prince charmant, mais continuer à croire à l'amour, hein, quand même. Alors, un petit passage sur les présidents, en fait.
Les présidents de société, puisque voilà, Business Story,
de société. Hein, Blandine
Marcel nous ramène dans le monde de l'entreprise, monde, bien sûr, caricatural, exagéré, mais l'ironie est là et les vérités sont parfois bien présentes aussi.
Alors, on est à un moment dans l'histoire donc, où le voisin qui s'appelle Welly a été embauché par une société qui s'appelle SCP, qui est juste à côté de la maison de la narratrice et de son double Blandine Marcel. Et le voisin Welly parle de cette société à la narratrice. Welly nous assure qu'on pourra bientôt rencontrer le président de SCP. On a remarqué que chef ou patron, ce n'est plus à la mode, mais président, ça n'a jamais été autant. Le président a invité Welly et certains autres à déjeuner dans un grand restaurant. Il a confié aux voisins que pour bien connaître une entreprise, il faut savoir évaluer la base. Welly est complètement démotivé, le prix du déjeuner équivaut pour lui à un mois de salaire, les Martines de base sont sous le choc. On écoute attentivement le compte-rendu du banquet. Pendant tout le repas, le président n'a pas arrêté de tripoter sa petite cuillère, de la faire tourner entre ses doigts et de l'approcher à hauteur de son nez pour se mirer dans le bombé. Un président, ça se reflète, et brillamment. Le président est possessif et pluriel. Mes entreprises, mes voitures, mes opérations financières, mes dossiers, mes secrétaires, nos affaires. Sa feuille d'impôt fait office de biographie. Il a des règles et des principes. Le président croit en Dieu, son frère. Personne ne le surveille, personne ne le gouverne. Le président aime ce qui fait rebondir le ventre et se chasse facilement. Mouton cadet sanglier, faisant château cheval blanc. Avec ses confrères présidents, il s'invite entre eux dans de grands restaurants. Il se partage les femmes, les cigares, les vieux mares et les territoires d'influence. Les présidents se font construire des tombes très haut perchées pour empêcher les chiens de venir y pisser.
Merci Florentine Rey. C'était donc un extrait de Blandine Marcel II. Business Story aux éditions Michelon. Le moment est venu pour nous de nous quitter, Florentine Rey. Et Dieu sait si ce fut un entretien très agréable et plaisant.
C'était vraiment très plaisant. Je vous remercie.
Je rappelle aux auditrices et auditeurs les titres de vos trois ouvrages actuellement disponibles aux éditions Michelon. Donc Blandine Marcel, donc le tout premier réédité. Et Blandine Marcel II, Business Story aux éditions Michelon, avec effectivement cette création d'entreprise qui produit des oreillers, notamment des oreillers avec des chenilles, des fourmis, des araignées, puis bien sûr les oreillers en peau de lapin. Mais qui va tuer les lapins? C'est dans Blandine Marcel II, tome 2, Business Story, et puis le roman graphique dont on a beaucoup parlé, me semble-t-il, mais tant mieux. Il le mérite amplement, Mon œil, avec un point d'exclamation, prix Olympe de Gouges en 2009, aux éditions Des Ronds dans l'eau, et c'est signé de notre invité Florentine Rey, que je remercie et que je salue.
Merci à vous.
Sachez que notre invitée Florentine Rey travaille actuellement à la rédaction de son prochain livre et elle travaille notamment sur le thème du lien à la mer qui devrait constituer le thème dominant de cet ouvrage que nous attendons avec curiosité et impatience. Avant de nous séparer, quelques manifestations et événements autour du livre dans Lyon dans les jours à venir. À noter déjà un rendez-vous lecture à la bibliothèque d'Auxerre, rendez-vous proposé demain à 18h30 par l'Association des Amis de la Bibliothèque Municipale d'Auxerre. Un moment de réunion pour se retrouver entre lecteurs, pour échanger les coups de cœur, pour échanger les conseils de lecture, pour découvrir et suivre l'actualité littéraire, c'est demain à 18h30 à la bibliothèque Jacques Lacarrière. Toujours à la bibliothèque Jacques Lacarrière, une exposition hommage à Thierry Bouchard, éditeur, à travers une collection privée. L'entrée est libre et c'est une exposition qui se tient jusqu'au 7 mai prochain. Je ne peux pas vous quitter sans vous rappeler que Radion sera présente au 20e Vinet Tonnéroise. À cette occasion d'ailleurs, la librairie Plumes et Images de Tonnerre aura un stand dans le vieil hôpital Marguerite de Bourgogne, hein, l'hôtel Dieu de Tonnerre, où se tiendront ces 20e Vinet. Et au stand de la librairie Plumes et Images, vous pourrez rencontrer un auteur de bande dessinée fameux, Philippe Bercovici, qui est l'auteur d'une bande dessinée enquête qui a pour titre Robert Parker, les 7 péchés capiteux. Des séances de dédicaces sont donc prévues sur les deux jours, hein, les 23 et 24 avril le prochain, une bande dessinée sur Robert Parker, le créateur du fameux guide Parker qui est depuis 30 ans l'homme le plus influent de la planète. 20 rendez-vous donc les 23 et 24 avril au Vinet, c'est à Tonnerre, au vieil hôpital Marguerite de Bourgogne. Je vous donne également rendez-vous pour ma part, mais sur les ondes, mercredi prochain à 21h, pour une émission de compte-rendu de la 14e fête du livre qui s'est tenue le week-end dernier à Autun. Vous pourrez y entendre différents auteurs et éditeurs présents sur ce beau salon organisé par les bénévoles de l'association Lire en Pays Autunois. Merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente fin de soirée à l'écoute des programmes musicaux de Radion. Au revoir.